Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des raisonnements, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être est brisé.
Ce matin, nous allons parler de la nécessité pour nous de passer par le désert avant d'entrer dans notre promesse, dans nos promesses. Alléluia. Le Seigneur t'a choisi pour faire une œuvre ici-bas. Nous travaillons tous pour que le royaume de Dieu soit manifesté, d'une façon ou d'une autre. Nous travaillons tous pour que la gloire de Dieu soit manifestée, chacun avec les talents que Dieu a déposés en lui. Et rentrer dans nos promesses, c'est entrer dans cette dimension-là où nous allons nous déployer, où la gloire de Dieu sera manifestée selon la vision qu'il nous a accordée. Amen. De manière générale, dans la vie de tout enfant de Dieu, il y a un grand désert. Mais de façon si ponctuelle, chaque fois que vous avez un challenge, chaque fois que vous voulez relever un défi, vous connaîtrez un désert. Amen. Alléluia. Vous connaîtrez un désert. Mais si vous saisissez ce message dans sa portée, la mentalité que Dieu veut que vous ayez dans ces temps de désert, vous passerez vos déserts aisément. Amen. Vous passerez vos déserts aisément pour entrer dans la victoire et dans la gloire de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu souffres. La volonté de Dieu, c'est que sa puissance soit manifestée au travers de toi. Mais Dieu aurait pu, de manière rapide, te donner ce qu'il t'a promis, les choses que tu as vues, l'influence que tu désires avoir sur la terre, dans ce monde, les rêves que tu avais depuis ton enfance, ce que tu as souhaité faire. Mais plus la vie avance, plus tu te sens perdu, faible. Tes rêves peuvent être en train de disparaître lorsque tu traverses le désert. Tu ne sais plus où est ton Dieu. Tu as pu le connaître, la victoire, la grâce, les choses qui ont réussi tout autour de toi. Et puis à un moment donné, vient l'étape du chercher. Et c'est pendant cette étape-là que Dieu va circoncire, va te passer par la circoncision. Pour ôter de toi, pour ôter ce prépuce, l'élément lié à ta nature, qui fait que tu ne peux pas vivre pleinement, entrer pleinement, saisir pleinement tes promesses, entrer dans la terre promise. La vision que Dieu a pour toi. J'ai dit que chaque fois que nous sommes amenés vers notre destinée, sur le chemin de notre destinée, dans le désert, nous sommes confrontés à 10 épreuves, 10 tentations. Et ces 10 épreuves ont pour but de créer en nous 10 sortes de mentalités. Alléluia. 10 façons de penser. Et lorsque quelqu'un arrive à acquérir ces éléments-là dans le désert, il a fini avec son désert. Amen. Alléluia. Il faut les acquérir donc pendant que vous êtes dans le désert, pendant que vous passez. La raison pour laquelle Dieu voulait que le peuple puisse passer par là, c'était pour acquérir une telle attitude, un tel être intérieur avant de saisir leurs promesses. Amen. Dieu aurait pu les faire passer directement, frapper les Philistins qui étaient sur le chemin, qui venaient faire la guerre. Et puis... Alléluia. Dieu aurait pu le faire entrer directement dans la terre promise. Parce que qu'est-ce qu'il y a de si compliqué dans cette terre promise? Quelquefois, lorsque vous regardez le désert, vous vous demandez, mais pourquoi même Dieu les fait passer par là? Était-ce nécessaire de souffrir autant? Ne fallait-il pas mieux les mettre dans la terre promise? Ils allaient commencer à cultiver, profiter. Israël allait commencer à dominer. Mais Dieu a voulu qu'ils puissent passer par le désert. Et nous serons tous amenés à passer par là. Alléluia. Et quand je posais la question ce matin, je me suis rendu compte que beaucoup parmi nous étaient dans les déserts. Certains ont fini des temps de désert et ont connu des temps de grâce. Mais comme la vie n'est pas finie et qu'ils ont encore d'autres challenges, alléluia, ils sont encore dans un nouveau désert. Amen. Pour réaliser la destinée. Amen. Et la première chose que Dieu veut que vous ayez comme mentalité dans le désert, c'est apprendre à compter sur lui pour tous vos besoins. Savoir que Dieu pourvoira toujours. Amen. Même quand tu as soif comme le peuple juif dans le désert, même quand tu vois tes enfants pratiquement en train de mourir de faim, tu as cette assurance-là, a dit, ne t'inquiète de rien, Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète pas pour le manger, pour le boire, de rien. Dieu pourvoit à tous tes besoins. S'il s'occupe ainsi des oiseaux du ciel, s'il s'occupe, aussi des plantes, il le fera pour toi. La deuxième mentalité que Dieu veut créer en toi suite à la seconde épreuve, c'est de te donner une détermination par rapport à ta vision, afin d'éviter la nostalgie. Alléluia. Vous savez qu'Israël, lorsqu'il entrait dans le désert, avait bien sûr une vision. Il savait qu'il partait jusqu'à la, il savait qu'il partait dans la terre promise. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, voyant que les choses étaient contraires à ce qu'ils espéraient, ils souhaitaient revenir, faire marche. Alléluia. Donc, si vous n'êtes pas déterminé par rapport à la vision que vous avez reçue, si la vision n'est pas clairement en vous et vous n'êtes pas déterminé par rapport à cette vision, vous allez vouloir faire marche arrière. Vous allez être nostalgique. Vous allez vouloir regarder en arrière. C'est pourquoi je dis, il faut considérer comme de la pourriture ce que vous avez connu auparavant. Quelle que soit la beauté de cette chose, quelle que soit l'aisance dans laquelle vous viviez auparavant, considérez ça comme de la pourriture. Parce que ce que vous avez connu n'est en rien comparable à ce que Dieu va vous donner. Et je vous dis, mes amis, je vous l'assure, le désert fini. On ne souffre pas toujours. Il y a un temps de restauration. Alléluia. Si nous prenons pour exemple dans la parole de Dieu, les grands hommes de Dieu, nous voyons que pour certains, les déserts ont duré de très longues années. Joseph, il a plus près de 17 ans. Beaucoup parmi nous n'ont pas encore 17 ans dans le Seigneur. Alléluia. Mais ils sont déjà fatigués du désert. Mais regardez un homme comme Joseph. La vie de Joseph m'impressionne constamment. Vous savez, quand je vivais, on n'avait pas encore écrit de Bible. Joseph est venu des siècles, près de 400 ans avant Moïse. Or, c'est Moïse qui a rédigé toute la Bible. Mais regardez sa capacité, son intérêt, sa foi. Il n'avait aucun verset, aucun passage pour lui. Avant toi, voilà comment quelqu'un a vécu. Mais il est resté ferme. Alléluia. Il n'a jamais renié Dieu. Il a passé vaillamment son désert. Au temps de la bénédiction, comme le passage Chimolo le disait, subitement, sans vous prévenir, un jour, brusquement, subitement, Dieu vous élève. Et là où Dieu vous amène. Alléluia. Mais si vous lisez la vie de Joseph, vous allez voir qu'il a passé ses 10 épreuves sans problème. Avec courage et détermination. Avec vision. Ce qui m'impressionne le plus dans sa vie, c'est lorsqu'il était en prison. Je pensais qu'en prison, Joseph voulait retrouver pour dire non, c'est trop. Qu'est-ce que j'ai fait à ce Dieu? Ma famille m'abandonne. Tout le monde me rejette. Je me retrouve en esclavage. Et quand Joseph a été esclave chez Potiphar, chose déterminante, je parlerai de ça tout à l'heure, Joseph va être travailleur. Il va avoir de la bonne humeur. C'est extraordinaire. Au point qu'à un moment, il a dit que tout ce qu'il touchait était béni. Et Potiphar l'a nommé son second. Et Joseph pouvait dire, rien ne m'est interdit dans cette maison excepté la femme de Potiphar. Et il a dit que son maître ne contrôlait plus. Son maître ne regardait même pas ce que Joseph touchait. Il n'y avait même plus de contrôle. Parce qu'il lui avait démontré l'intégrité, la droiture, l'honnêteté. Il avait une confiance totale. Et qu'il a vendu ceci, c'est que c'est ce qu'il a vendu. Son maître ne contrôlait plus rien. Joseph est resté droit. Il n'était plus un esclave avec les chaînes aux pieds. Il aurait pu dire, dès qu'il était libéré de ses chaînes, dit, Jacob, mon père, est extrêmement riche. Parce que la Bible dit de Jacob qu'il était extrêmement riche. Et il dit, ici, je suis en esclavage. Pendant que son maître avait confiance en lui, il aurait pu prendre un petit chameau, monter sur le dos du chameau et retourner chez son père. Alléluia. Et puis aller régler le compte à ses frères. Parce qu'il arrivait à un moment donné où on ne pouvait plus le poursuivre. On avait tellement confiance en lui. Mais Joseph est resté ferme parce qu'il connaissait sa destinée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la vie sentit qu'en Égypte allait se produire quelque chose. Il avait toute l'attitude de repartir chez son père. Et puis il dit, père, mes frères t'ont raconté que je suis mort, je ne suis pas mort. Voilà ce qui s'est passé. Son père peut-être aurait régné les autres. Et Joseph aurait hérité de la richesse de Jacob. Jacob, si vous lisez bien la vie de Jacob, Jacob était sûrement plus riche que Isaac et Abraham. Il était extrêmement riche. Joseph avait la possibilité de profiter de ces choses. Mais par rapport à sa destinée, il a préféré rester dans l'humiliation de la... d'être esclave. Même s'il avait tout dans la maison, mais il était esclave. Chez son père, il est roi. Et ici, il est esclave. Mais Joseph est resté persévérant. Il a cru en Dieu. Jusqu'à ce que la femme de Potiphar vienne le tenter. Alléluia. Jusqu'à ce que la femme de Potiphar vienne le tenter. Joseph va encore être aigre. Il va refuser de pécher. Amen. Ça aurait été tellement plus facile pour lui d'accepter le compromis. Il aurait eu tellement moins de problèmes de cette femme. Il savait très bien que si c'était avec elle, c'est bien sûr pas elle qui serait partie dire à son mari, tu sais, ton esclave, je te trompe avec lui. Parce qu'elle sait très bien que Joseph aurait été mis à mort. Donc Joseph savait que ça allait rester quelque chose de secret. Mais s'il résistait à la femme, il savait très bien qu'elle allait poser des problèmes. Parce qu'elle tenait absolument à coucher avec lui. À cause de son Dieu, Joseph a dit, je ne pécherai pas contre elle. Mais pourtant, en ce moment, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas la Bible. Amen. Il n'y avait pas les 10 commandements. C'est ce qu'il ressentait par rapport à Dieu. Il a obéi à ce qu'il ressentait par rapport à Dieu, que ce n'était pas bien. Et il est resté ferme. Et cela lui a valu d'aller en prison. Alléluia. Joseph va se retrouver donc en prison. Et dans la prison, Joseph va rester encore intègre. Et là, c'est ce qui m'impressionne. Joseph va rester intègre en prison. La preuve, c'est que lorsque les deux serviteurs de Pharaon qui ont été jetés en prison sont venus le voir, pardon, ont eu des sons, la Bible dit que Joseph est arrivé et leur a dit, mais pourquoi vous êtes abattus? Ce qui suppose que lui, Joseph, n'était pas abattu. Ça veut dire qu'il avait bonne mine en prison. Et il était tellement bien en prison que le chef de la prison lui a... même. Il n'a pas dit, mais voilà, ce Dieu que je sers, pour lui j'ai été... Je n'ai pas péché. Je suis resté droit. Et qu'est-ce que cela me vaut? La prison. Il n'est pas parti en prison parce qu'il avait commis un péché. Mais il est parti en prison injustement. Et Joseph est resté ferme et droit dans la prison. Quand les hommes lui ont posé le songe, il leur a dit, c'est à Dieu qu'appartient l'interprétation. Il avait toujours gardé sa foi en Dieu. Il a prié et il leur a donné l'interprétation des songes. Il dit, mais quand vous allez sortir, souvenez-vous de moi. Mais il a dit à celui qui allait être élevé à l'échanson, souviens-toi de moi. Malheureusement, comme le temps du dessin n'était pas terminé, ce monsieur est sorti, il a totalement oublié Joseph. Alléluia. Vous savez, quand vous êtes dans le désert, il n'y a pas de raccourci. Je ne dis pas de ne pas essayer, si vous pouvez vous en sortir. Mais vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses que vous essayez tombent à l'eau. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Amen. Alléluia. Il faut juste sortir du désert. La destinée n'est pas dans le désert. Donc Joseph a essayé de sortir. Il disait, mon ami, tu vois, en fonction de l'interprétation que je viens de te donner, souviens-toi de moi lorsque tu vas voir Pharaon. Dis-lui que je suis en prison injustement. Joseph allait sortir, je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait faire. Peut-être qu'il allait repartir chez son père. Qu'est-ce qu'il allait faire? Et là, on ne s'est pas souvenu de lui. Cela a duré 2 ans. Mais un jour, comme on dit, en 24 heures, alléluia, il y a eu un bouleversement. Amen. Et Joseph est entré dans toute la dimension de la gloire que Dieu attendait de lui. Vous savez, sans transition. Je pense que quand Potiphar, comment dirais-je, Pharaon l'avait relevé, il devait dire normalement, c'est vrai que tu es très intelligent, on va te nommer directeur de certaines sociétés. Ou bien, je vais te mettre quelqu'un, on va te former, et puis après on verra si tu es digne d'être premier ministre. Mais on ne peut pas prendre quelqu'un d'une prison et le nommer premier ministre. Il n'a pas fait ses preuves. Comment vous pouvez lui confier tout un royaume sans lui avoir donné l'occasion de faire ses preuves? Ça, c'est la main de Dieu. Amen. Alléluia. Même s'il voulait l'élever, il aurait pu ne pas le mettre premier ministre. Même un simple ministre, ministre de l'économie et des finances, comme il s'agissait de problèmes financiers, mais ministre de la culture, comme il devait régler un problème de famine, ministre de l'agriculture, et puis le gouverneur est là pour contrôler son travail. Mais il dit non, tu deviens premier ministre. Tu vas gérer le gouvernement. Alléluia. Alléluia. Oui, les épreuves ont un temps de fin. Mais pendant que vous êtes éprouvé, il faut passer vaillamment ce temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Si vous faites comme Israël, votre désert risque de trop durer. Mais je sais que tu vas avoir la victoire. Amen. Et nous avons terminé ce matin en parlant pour le troisième point. J'ai dit c'est de la présence de Dieu. La mentalité que tu veux avoir, que Dieu voulait que vous puissiez avoir, c'est cette assurance-là que l'Éternel est toujours avec vous. Même quand vous trébuchez, vous dites, l'Éternel est là. Vous ne comprenez pas peut-être la voix de Dieu, mais sachez que l'Éternel est là. Alléluia. Gloire à Jésus. Toutes les mères qui ont des enfants désirent que l'enfant puisse marcher. Mais je suis convaincu que les mères savent que, et même les pères, on sait, que quand l'enfant va vouloir marcher, il va forcément tomber. C'est pas ça? On ne peut pas marcher sans faire du chemin. L'enfant dans sa mentalité, lorsque sa mère le laisse marcher et chuter, tomber, faire une chute, peut-être qu'il se dit, mais ma mère est contre moi. Elle sait très bien que je vais chuter, mais pourquoi elle ne me soulève pas pour m'empêcher de marcher et de tomber? Mais la mère ne voit pas la chute dans l'enfant. Elle voit un enfant qui va se lever et qui va marcher. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de victoire sans quelquefois des séries d'échecs, des problèmes, des incompréhensions. Et c'est ce qui nous forme. Amen. Dieu est avec nous, même quand nous trébuchons. Nous confessons nos faiblesses, nous confessons nos péchés, nous nous relevons. Il faut être déterminé. Déterminé à atteindre votre vision et savoir toujours que Dieu est avec vous tant que vous restez sur le chemin de la terre promise. Amen. Le quatrième point, c'est l'impatience. Et nous avons lu Exode, le chapitre 32, au verset 1. Il est dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta alors dans un moule et il fit un veau en fonte. Il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils s'élevèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Alléluia. Là, Dieu dit à Moïse, c'est ton peuple. Dieu, des fois, il est fâché bizarrement. Avant, il disait, mon peuple. Mais cette fois-ci, il a dit, Moïse, ton peuple. Oh, au début, Moïse lui a dit, mais quand tu m'as envoyé, tu m'as dit, va chercher mon peuple en Israël, mon peuple en Israël. Maintenant qu'il y a des problèmes, tu dis, Moïse, ton peuple. Alléluia. La Bible dit que Moïse a tardé. Moïse est monté sur la montagne pour aller chercher les lois de Dieu, pour écouter la voix de Dieu. Et Moïse tardait à descendre. Et comme Moïse tardait, le peuple a voulu encore prendre un autre raccourci. Moïse tardait. Et vous allez attendre la grâce de Dieu, attendre la fin du désert, mais vous avez l'impression que Dieu tarde. Dieu tarde. Le temps de tarder arrive toujours. Un exaucement, vous avez l'impression que Dieu est en retard. C'est vrai, Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. La Bible dit que Moïse tardait. Et le peuple a manifesté de l'impatience. La quatrième épreuve dans le désert sera l'épreuve de votre patience, votre capacité à attendre. Mais pas seulement la patience, surtout la persévérance. Alléluia. Parce qu'on peut attendre, mais peut-être de manière négative. C'est-à-dire, on attend, mais en attendant, on fait de mauvaises choses. Mais surtout la persévérance. Moïse tardait et le peuple a été impatient. La Bible dit dans le livre de Hébreux, le chapitre 10, verset 36, il est dit, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Alléluia. Vous avez besoin de persévérance. La Bible parle souvent de persévérance. Plusieurs passages dans les Écritures nous parlent de persévérance. Joseph a persévéré. Abraham a persévéré. Jésus a persévéré. Aucun homme de Dieu n'est entré dans sa dimension prophétique, n'est entré dans sa promesse sans persévérance. Vous ne pouvez pas réussir si vous n'ajoutez pas à votre détermination la persévérance. Il faut persévérer. Persévérer, c'est savoir attendre et garder le cap. Ce n'est pas dévier. C'est garder le cap. Mais vous gardez ce cap parce que vous êtes convaincu de Dieu avec vous et que c'est là qu'il vous a dit de partir. Tandis que le vent est contraire, tandis que la bénédiction doit arriver, je te dis, après la tempête, il y a la lumière. Après la tempête, il y a la gloire. Et tu sens que le vent est contraire, mais tu persévères. Les choses tomberont autour de vous. Dieu va tarder. La quatrième tentation, la quatrième épreuve du désert, c'est l'épreuve de votre patience. Vous allez devoir attendre. Alléluia. Et vous attendez, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Mais c'est juste que Dieu veut vous apprendre à être persévérant. À savoir attendre. Et vous savez, Dieu vous fait souvent attendre des choses. Ça paraît souvent tellement inutile le temps que vous passez à attendre que vous ne savez même pas qu'est-ce que cela vous apporte. Ça veut dire les détails de ce temps perdu. Par exemple, la vie de Jésus de 0 jusqu'à 30 ans. On n'en parle même pas. On ne sait pas ce qu'il a fait. Ce qui veut dire que ce n'est même pas pratiquement utile pour notre salut. Et c'est à partir de 30 ans que sa vie est comptée exactement. Sauf à l'âge de 12 ans, où on parle un peu de lui. Mais tout ce qu'il faisait en temps, il était charpentier, il faisait, mais pourquoi toutes ces choses? Ne pouvait-il pas commencer depuis l'âge de 15 ans à prier pour les malades? Jésus n'a guéri aucun malade. Il n'a prié pour aucune personne. Parce que son premier miracle, c'était de transformer de l'eau en vin. C'est écrit que c'est le premier miracle de Jésus. Donc auparavant, Christ n'a fait aucun miracle. Alléluia. Il faut savoir attendre. Si vous n'avez pas la persévérance, cela va commencer la grande chute. Les gens qui ne savent pas attendre Dieu. Jusqu'à ce péché, jusqu'à la quatrième tentation, jusqu'à la quatrième épreuve, Dieu ne s'était pas vraiment irrité contre le peuple. Après la cinquième tentation, ça veut dire l'impatience va produire quelque chose. Amen. Parce que quelquefois, on peut savoir que Dieu existe, on peut savoir que Dieu est vivant, on peut savoir qu'il est avec nous. Mais comme il tarde, nous appliquons cette parole du monde, aide-toi, le ciel t'aidera. Maintenant, tu dois agir. Et Israël a décidé d'agir. Comme Moïse tardait, ils vont aller voir Aaron. Ça, nous parlons de la chute du veau d'or. Et ils vont demander à Aaron de faire quelque chose. Parce que Moïse n'est plus. Ils vont demander à Aaron de leur construire un veau d'or. Il a construit quelque chose qu'il pouvait adorer. Aaron va se laisser séduire. Voilà la chute d'un homme de Dieu. Vrai serviteur de Dieu. Aujourd'hui, à cause de l'impatience des fidèles, à cause de l'impatience des gens, beaucoup de pasteurs sont détournés de la voie de Dieu. Les gens veulent tellement les miracles tout de suite et maintenant que beaucoup d'hommes de Dieu sont devenus des menteurs. Ils sont obligés de faire des promesses bizarres à tout le monde. Viens aujourd'hui, je prie pour toi. Tout va changer à l'instant, maintenant et tout de suite. Le monde nous apprend tellement à aller de façon précipitée que nous voulons aussi que Dieu soit comme une télécommande que nous commandons avec une télévision que nous commandons avec la télécommande. Et les hommes de Dieu nous présentent toutes sortes d'affiches et de programmes et de promesses. Les hommes de Dieu sont devenus comme des charlatans. Les gens ont transformé Aaron pour que Aaron leur donne ce qu'ils ont envie d'avoir. Aujourd'hui, si un pasteur ne prie pas comme les fidèles entendent, ce qu'ils souhaitent voir, ils le laissent et ils vont ailleurs. Alors les fidèles sont obligés de devenir comme Aaron. Aaron ne voulait pas laisser partir le peuple. Et il a commencé à leur faire plaisir. Alléluia. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui cherchent à vous faire plaisir. Avec toutes sortes de promesses. C'est là que commence la chute du veau d'or. Le peuple a besoin d'un Dieu à son service. Le peuple a besoin d'un Dieu qui répond à tous ses caprices. Parce qu'ils sont fatigués d'attendre. La Bible dit dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 4, verset 3. Il est dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. J'exhorte tous ceux qui sont appelés à servir le Seigneur, à tous les hommes de Dieu, de ne jamais se laisser séduire, comme à Aaron. Si vous êtes appelés à servir le Seigneur, gardez la vérité. Gardez la vérité, quels que soient les problèmes. Gardez la vérité, quel que soit ce que les gens vous diront. Alléluia. Frère, c'est vrai que les hommes de Dieu se détournent. Mais souvent, c'est l'Église qui fait détourner les gens. Tu veux tellement que l'Église grandisse, mais des fois, je te dis, mais pasteur, toi, tu ne sais pas faire la délivrance? Tu ne sais pas faire la délivrance? Mais si tu ne sais pas faire la délivrance, moi, je vais ailleurs. Il y a tellement l'Église aujourd'hui. L'offre est supérieure à la demande. Vous avez toutes les églises, toutes sortes d'églises, pour tout ce que vous voulez. Toutes sortes, vous voyez, les gens sont arrivés à canaliser chaque prédicateur. Vous voulez des prédicateurs comme ça? Bon, il y a tout, chacun présente. Et puis les fidèles sont là, ils choisissent. Bon, au moins je pars, au moins je pars, au moins je pars. Hélas. À cause de l'impatience. Les gens ne savent pas attendre. Quels que soient les hommes chez lesquels vous partirez, si ce n'est pas le temps de Dieu, alléluia, si le désert n'est pas fini, ce ne sera que de l'illusion. Ce sera peut-être des paroles qui vont vous encourager pendant un temps. Mais le temps du désert, c'est le temps du désert. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Aucun jeûne et prière, aucun homme de Dieu, par une parole prophétique, si puissante soit-elle, te fera sortir du désert. C'est toi seul qui va te faire sortir du désert. Toi seul avec ton Dieu. Le désert, c'est un temps de rencontre entre Dieu et toi. Aucun homme, aucun intermédiaire. Les hommes peuvent t'aider, on peut t'encourager, comme je le fais aujourd'hui. Mais ne crois pas que une prière spéciale va vous faire arrêter votre désert. Non, ça ne peut pas marcher. On va prier dès que vous allez sortir de ce lieu. Alors toutes les portes vont s'ouvrir devant vous. Si c'est la fin de ton désert aujourd'hui, alors les choses s'ouvriront devant toi. Mais si ce n'est pas la fin de ton désert, ça va continuer. Amen. Jusqu'à ce que tu aies l'attitude que Dieu attend. Amen. Jusqu'à ce qu'il ait créé l'attitude que Dieu attend. Et Dieu est capable de te faire attendre. Il va te faire attendre. Pour rien. Tu dis, mais Seigneur, je suis patient. Seigneur, je me suis sanctifié. Et puis Dieu te regarde, c'est rien. Un jour, deux jours, un an. Tu dis, mais Seigneur, fais quelque chose. Dieu tarde. Deux ans. Pour les gens qui veulent se marier, Seigneur, je prends de l'âge. Trois ans. Tu dis, Seigneur, j'ai prévu avoir mon premier enfant à 25 ans. Ou bien à 30 ans. Si après 30 ans, regarde l'écart d'âge qu'il aura entre mon fils et moi. Il faut que maintenant je me marie. Tes 30 ans arrivent et puis tu te regardes. Serein. Pasteur, il faut que je me marie. Et le pasteur prie, le mari ne vient pas. Alors on attend un homme. Venez à ce programme. Les célibataires vont se marier. Je vais décanter les situations. Au point, j'ai vu une femme récemment qui était arrivée à Abidjan, qui est venue, qui a fait un programme, je parlais de ça, qui a fini le programme pour faire marier les gens, qui a mis les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, qui dit, regardez-vous, choisissez. On dit, quels sont ceux qui sont pas mariés parmi les frères qui veulent se marier? Les gens ont levé la main dans la salle. Les sœurs, quelles sont celles qui veulent se marier? Les sœurs ont levé les mains dans la salle. Il dit, venez, elle dit, montez sur la chaise. Ils sont toutes montées sur la chaise. Ils sont tous montés sur le podium. Il dit, bon, maintenant regardez-vous. Nous allons faire une prière. Puis regardez. Bon, maintenant, choisissez, choisissez. Et des gens comme ça, vous voyez, ça ce sont des Aaron. C'est-à-dire des personnes qui ont détourné l'évangile pour faire plaisir aux autres. Alléluia. Je crois que Dieu donne le mariage. Mais vous savez, je ne sais pas dans quel domaine le Seigneur va vous t'éprouver. Ça peut être dans le mariage, ça peut être pour le boulot. Je ne sais pas, ton désert va consister à quoi. Mais on a tous des problèmes différents à régler. Sur un problème pour lequel Dieu va te faire attendre. D'autres éléments seront bénis. Tu vas voir, peut-être tu vas avoir du boulot, tu auras ta maison, tout. Peut-être que le mariage va tarder. Peut-être que tu vas avoir le mari. Peut-être que tu n'auras pas de boulot. Peut-être que tu vas avoir le mari, tu n'auras pas d'enfant.
et va te faire la donne.
Seigneur, je ne comprends pas. Une femme sans enfant. Une femme. Tu as dit dans ta parole, soyez fécond. Soyez fécond. Soyez fécond. Seigneur, cette malédiction, je ne suis pas fécond. Tout ça, c'est bien, tu as raison. Mais Dieu va te faire attendre. Tu as parfaitement raison. Et c'est ce qui fatigue. Parce que tu sais que ce que tu demandes est légitime. C'est ce qui fatigue dans la période de la patience. C'est pas que tu veux quelque chose d'extraordinaire. Tu veux juste l'essentiel, n'est-ce pas? Alléluia. Mais il faut passer ça vaillamment. Amen. Regardez Abraham. Regardez Abraham. Aujourd'hui, nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham. Nous sommes bénis. C'est une bonne chose. Gloire à Jésus. Mais regardez la vie d'Abraham. Alléluia. Lui, Dieu l'a éprouvé sur les enfants. Dieu l'a éprouvé. Il est resté ferme. Et vous savez, il avait tellement acquis, tellement, il était tellement rempli d'onction que le jour où il a fait l'erreur, c'était une erreur fatale pour l'humanité. Parce que son erreur, ça a été de créer, de faire naître Ismaël. Et Ismaël, c'est lui qui a envoyé l'islam. Et aujourd'hui, on a tous les problèmes. Alléluia. Et par la grâce de Dieu. Bien enseignement, je dis, sur ce thème-là, je dis, si proche de la gloire engendrée par la chair. Ça veut dire comment un homme de Dieu, si proche de la réalisation de sa destinée, est capable de poser un acte. Vous savez, quand vous êtes rempli, quand vous avez énormément d'onction, quand Dieu vous remplit, vos erreurs sont accompagnées d'onction. Oui. Parce que l'onction, c'est un dépôt. Même vos erreurs sont accompagnées d'onction. Même si vous enseignez une hérésie, l'onction se manifeste malgré tout. Regardez comment Ismaël a été béni. Ismaël a été béni. C'était une erreur, mais Dieu a béni Ismaël. C'était une erreur, mais Dieu a posé la main sur Ismaël. Les Arabes ont une main de Dieu sur eux. Ce n'est pas le diable. À cause d'une alliance entre Abraham et Dieu, Dieu a tenu à sa promesse. Alléluia. C'est pourquoi il faut savoir attendre. Amen. De sorte que, proche de votre gloire, vous ne posez pas un acte que vous allez regretter toute votre vie. Soyez patient. Sachez attendre. Amen. Et Aaron transformé produit un veau d'or. C'est quoi le veau d'or? Le veau qu'ils ont fait, si vous avez bien remarqué le passage, ils l'ont appelé du nom de l'Éternel. Aaron dit, Israël, voilà l'Éternel ton Dieu qui t'a délivré. Ils ont cru que c'était Dieu. Mais c'était une image, en fait, pour montrer ce que l'homme attend de Dieu. C'est quoi un veau d'or? Vous avez d'abord le veau. Le veau, c'est le petit gibeux. Mais c'est l'élément du service. Les bœufs servent. Ils servent à faire des plantations. Ils servent à donner de la viande, à nourrir, à donner du lait. Le veau, c'est l'image du service. De celui qui a ton service. Qui te nourrit, qui te donne même du cuir pour ton vêtement, qui laboure ton champ, qui peut t'aider à labourer ton champ. Le veau, c'est celui qui répond à tes besoins. Donc c'est cette image-là, ce Dieu qu'ils voulaient avoir, qu'ils ont traduit par le veau. Le veau était en or, pour parler de la richesse. Non seulement avoir tous nos besoins comblés, prospère aussi. Et on dit, Israël, voici l'Éternel ton Dieu, celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Ce veau. Et Aaron a dressé devant ce veau-là un autel d'holocauste, l'idolâtrie. Alléluia. La Bible dit que les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ils vont vouloir à ce que les gens leur enseignent des fables, des choses qu'ils veulent entendre. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses qu'ils souhaitent. Je vous disais la dernière fois que Dieu est le roi des rois. C'est pas lui qui va nous servir, c'est nous qui devons le servir. Beaucoup de gens maintenant utilisent Dieu comme un serviteur. Mais si on leur demande, ils te diront non, c'est notre Dieu. Dieu est celui qui doit répondre à tous nos petits besoins. Il est là comme dans notre main. Seigneur, tu n'as pas un mari pour moi? Seigneur, tu n'as pas un peu d'argent pour moi? Seigneur, tu n'as pas un peu ceci pour moi? Mais il n'y a plus le service rendu à Dieu. Dieu te sais. Et vous savez, le veau, c'est la conséquence de toutes les autres tentations. L'état de leur cœur a fini par produire un veau. L'état de leur cœur a fini par produire un veau. Un Dieu à leur image. Un Dieu comme ce qu'ils souhaitent avoir. Un Dieu qui parle à tous leurs besoins. Dieu qui vous sert. Tu dois servir Dieu. Amen. Alléluia. Je ne reviendrai pas, je vais peut-être dire deux mots ce que j'avais dit la dernière fois. Cherchez premièrement l'Éternel. L'idolâtrie, c'est avoir quelque chose à la place de Dieu dans le cœur. Amen. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout. Dieu veut être le premier dans ton cœur. J'avais parlé des classifications. Je vous demande de reprendre les cassettes des messages précédents afin d'écouter cette partie. Mais c'est sur quoi je vais insister, parce qu'il y a effectivement l'élément idolâtrie, mais c'est l'élément du Dieu qui nous sert. J'ai vu que même en venant à l'église des dimanches, la plupart des chrétiens, beaucoup de gens aujourd'hui dans l'église, viennent pour se faire servir par Dieu. Et ils sont exigeants. Ah oui, exigeants. Tout le monde veut venir à l'église. Il faut que, je ne sais pas, c'est pas quand on va à l'église, tout le monde doit être à l'aise. Tout, on doit, les pasteurs, on vous sert. C'est vrai. On doit vous servir. Mais les gens viennent, au lieu de servir Dieu, ils attendent plutôt un service. Il faut que ce jour-là, le groupe de louange se débrouille pour leur faire une très belle adoration. Ils ne savent même pas comment les gens se préparent pour chanter. Ils ne font aucun effort pour améliorer la louange, l'adoration, même pour prier pour eux. Et ils veulent, ils sont exigeants. Si vous n'avez pas bien chanté ce dimanche, ah, mais aujourd'hui, quelle est la louange? Ah, mais c'était nul. C'est, ils ne savent pas, ils se consacrent pas à ces gens. Mais attends, mais toi, d'où tu viens? Les gens se préparent dans la consécration pour... Toi, tu viens venir juste t'asseoir dans l'église et puis juger de tout. Hein, comme Dieu, il faut qu'on te serve. Bonne louange, ok. Il faut que les gens t'apportent une bonne louange. Qu'ils se consacrent suffisamment, ok. Toi, pour te permettre d'entrer en communion avec Dieu. Parce que dans la semaine, tu es trop occupé pour servir le Seigneur. Et dimanche, tu arrives à l'église et tout doit être bien. Tu vas avoir un service d'un père qu'on t'accueille très bien à l'entrée. Ça, c'est super. Et tu t'assois, on te fait une bonne adoration pour te permettre en communion avec ton Dieu, ok. Et malheur au prédicateur si ce jour-là il n'a pas donné un puissant message. Peu importe la façon dont il se prépare à la maison, la manière dont les gens cherchent Dieu, mais les gens doivent vous donner, c'est ça le veau d'or. Les gens qui viennent à l'église, qui se contentent que du culte, et qui n'ont aucun service rendu à Dieu. Qui ne font rien. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Créer un veau d'or, c'est ça. Tu ne fais rien pour Dieu. Dieu doit te servir. Il doit te donner un bon message. Il doit pouvoir à tes besoins. Il doit te trouver du boulot. Et toi, tu fais quoi? Il doit te donner un mari. Mais qu'est-ce que tu fais? Dans la maison de Dieu, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Juste toi-même, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ta présence dans l'église apporte à l'avancement du règne de Dieu? Mais quand tu es là, il faut que tout le monde chante bien. Si quelqu'un a dégamé, tu sais, pasteur, cette sœur, elle dégame très souvent. Non, parce que vous voyez, s'il n'y a pas une adoration comme ça, vraiment, je préfère aller dans cette église-là parce que les gens chantent mieux. Ah, je préfère aller chez ce pasteur-là parce qu'il prêche mieux. Moi, je vais aller dans l'église. Tu sais, ici, on ne comprend plus, le pasteur n'est plus trop inspiré. Ce que tu fais un péché.
Amen.
Tu as créé un veau d'or. Dieu n'est même pas d'accord avec toi. C'est là qui arrête les gens dans le désert. Les gens viennent à l'église, mais ils veulent se servir de Dieu. Ils veulent que tout le monde les serve. Qu'on soit à leur service. Que tout se passe comme ils le souhaitent. C'est ça, construire un veau d'or. Avoir un Dieu à ses pieds. Est-ce que tu n'as pas déjà ton veau d'or? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Ou bien venir chanter à l'église, c'est un service à Dieu que tu rends. Mais c'est un service pour toi-même. Suivre le culte et rentrer juste à la maison après le culte, est-ce que c'est une adoration? C'est un service que tu rends à Dieu? Ou bien tu te rends un service à toi-même? Servir Dieu, c'est un désintéressement. Je fais ça pour mon Dieu. Parce que je l'aime, parce que je l'adore. Mais quand tu viens avec la mentalité, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Tu crées un veau d'or.
qu'est-ce qu'il a à me dire aujourd'hui? Et s'il n'a pas dit quelque chose qui coïncide avec ton problème, alors tu trouves que c'est pas bien. Et c'est vous, excusez-moi, mais c'est vous qui tuez les pasteurs. Oui. Moi, je ne me force même pas pour avoir un message spécial pour les gens. Ce que Dieu me dit de dire, je vais gérer. Je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Oui, parce que vous avez des gens qui m'ont dit, non, ah, parce que tu vois, tu sais, la dernière fois, tu as bien prêché, le message était bien, mais aujourd'hui, là, tu n'es pas trop inspiré. On n'est pas toujours inspiré. Et puis, mais qu'est-ce que ça fait? Attends, où est le problème? Où est le problème? Attends. Il y a des fois, Jésus a prêché, les gens ont lapidé. Il y a des fois, ils ont prêché, on dit, mais qui prêche comme ça? Un jour, l'apôtre Paul est en train de prêcher. Il y a un homme, Tychius, qui s'est endormi. Ça dit, la prédication de Paul faisait dormir. Il est tombé, Paul l'a ressuscité. Mais où est le problème? Où est le problème? Si je viens servir Dieu, je viens avec une autre mentalité. Je ne viens pas à l'église pour recevoir, je viens pour donner. Tant que vous viendrez à l'église pour recevoir, vous cherchez un veau d'or. Mais lorsque vous avez l'impression que vous venez au culte pour donner, là, vous changez les choses. Là, vous ne vous attendez plus à ce que les gens vont vous donner, mais vous attendez à ce que vous allez faire. Même si le pasteur n'a pas bien prié, c'est pas grave. Vous, à la fin, peut-être il faut que je donne l'amour aux frères. Je vais saluer les gens, je vais rester sympa avec les frères, parler avec eux. Je vais recevoir les nouveaux. On vient pour servir et non pour être servi. Les gens qui auront toujours des veaux d'or tant qu'ils continueront à venir dans les assemblées dans le but de recevoir et non de donner. Alléluia. Amen. Servir les autres frères, aider, faire avancer le royaume de Dieu dans leur vie, parler avec eux, avoir du temps pour eux. Avoir du temps pour faire avancer le royaume de Dieu. La plupart aujourd'hui des chrétiens restent là, à ce niveau. C'est ici que les gens échouent. Ils sont tellement arrivés à transformer le culte pour en faire une zone de service, comme un marché où ils viennent prendre des éléments, un peu de, comment on dit la dernière fois, j'ai parlé de vitamines, un peu de vitamines de louange. Ils viennent prendre et non donner. Ils viennent prendre et non donner. La Bible déclare qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir.
Je commence même simplement par les pasteurs. Il faut les servir, il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux. Les frères ne prient pas pour les pasteurs. Les gens ne prient pas pour les pasteurs. Mais vous ne savez pas combien de fois la tentation, l'épreuve est là. Et quand les gens, les frères vont, quand le pasteur va faiblir, vous serez les premiers à lancer la pierre. Mais je ne comprends pas. Il a dû pécher ce pasteur. Il a retrogradé. Il ne prêche plus comme avant. Pasteur, est-ce que ta vie, ça va bien? Mais si personne ne prie pour lui, je n'accepte jamais. Quand un frère vient me voir quitter notre église parce qu'il estime que son pasteur n'est plus affaibli, je trouve que c'est une humiliation pour moi-même. C'est une injure pour moi-même. Parce que ça veut dire que le jour où, s'il m'arrive de faiblir, toi, tu vas me laisser. Tu n'aurais personne pour prier pour moi. On n'est pas toujours fort. Il peut arriver des temps où on faiblit. David a faibli à un moment donné. Parce que les gens viennent juste pour sucer ce que tu as. Et s'ils ont l'impression que tu n'as plus rien à leur donner, alors ils vont ailleurs. Ça, la mentalité de vos dents. Tant que vous l'avez, vous ne quitterez pas le désert. Votre vie sera constamment un désert. Si vous ne comprenez pas qu'il faut servir Dieu. Si vous croyez que Dieu va vous servir constamment, vous allez vous tromper. Priez pour les pasteurs. Jeûnez pour eux. Afin qu'ils soient davantage en communion avec le Seigneur. Et qu'ils puissent mieux apporter le message de Dieu. Et apporter la nourriture au temps convenable. Avoir la sagesse pour conduire la maison du Seigneur. Parce que s'il est rempli, vous aussi vous serez rempli. Alléluia. Alléluia. Mon ami le pasteur Georges Amouako, je pense que je vous allez le recevoir. Qui est un pasteur à Abidjan, que le pasteur Yvon aussi aime beaucoup. Et, il enseigne ça chez moi, il a parlé du service qu'on donne à Dieu. Il dit, vous avez, il y a les trois T. Hein? Les trois T. Les trois T, chacun doit amener ses trois T dans la maison de Dieu. Ton premier T, c'est ton talent. Ce que tu sais faire, tu dois avoir une partie de ton talent que tu amènes à Dieu. Ce n'est pas seulement l'argent. Les chrétiens ont cru que l'offrande, c'était l'argent. L'offrande, ce n'est pas seulement l'argent. C'est ton talent. Les trois T, vous avez le talent, n'est-ce pas? Le temps. Et puis le troisième T, le trésor, ton trésor. Et au moins, dans les trois T, je pense qu'il faut commencer d'abord à donner la dîme de ces trois T à Dieu. C'est-à-dire la dîme de ton talent. Ton talent, ce sont tes capacités, ce que tu sais faire. Pasteur, je viens te voir, pasteur. Moi, je suis ingénieur informaticien. Ah bon? Et je voudrais apporter mon service à la maison du Seigneur. Je veux mettre mon talent au service de la maison de Dieu. Tu as combien d'heures dans la journée? J'ai 24 heures. Voilà mon emploi du temps. Je veux consacrer ce temps-là avec ce que je sais faire pour Dieu. Ça, c'est ton talent. Ah, parce que tu sais, tu m'as béni, je fais de la décoration intérieure. La décoration intérieure. Ah bon? Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et chacun a un talent. Amen. Pasteur, peut-être que je ne sais pas faire grand-chose avec mes mains. Mais Dieu m'a fait une grâce. C'est que j'aime la prière. Je vais te demander une chose. Je vais prendre tes sujets, je vais prier pour toi. Chaque jour, je viens, une fois dans la semaine, je passe chez toi à la maison, je te donne une feuille. Note-moi quelques sujets. Et c'est pour moi un plaisir, pasteur, de pouvoir prier pour toi. Ça, c'est un je sais prier. Ah, pasteur, tu sais, je jeûne trois fois dans la semaine. Mais je vais prendre un jour pour prier pour vous. Un jour pour jeûner, pour prier pour l'église. Ça, c'est un dé. Enfin, le talent. Il faut aussi accorder ton temps au Seigneur. Au moins la dîme de ton temps. On a 24 heures dans la journée. Ça veut dire un peu plus de 2h30. Pour prier toi-même, pour être en communion avec le Seigneur, mais pour servir Dieu dans la maison du Seigneur. Pas pour venir attendre le dimanche et puis attendre le culte. Vous apportez par exemple, en entrant dans une cellule et en servant dans une cellule, vous participez à faire avancer le royaume de Dieu. Je crois que vous avez fait des groupes de Impact 12. Vous avez des cellules en apportant vos services là-bas. Le temps que vous consacrez. Et puis le trésor, c'est ce que vous avez comme bien. Ton trésor, ton argent. Alléluia. Voilà la cinquième tentation, c'est-à-dire le veau d'or, qui est l'idolâtrie dans laquelle est tombé le peuple juif. Bien sûr, j'ai dit n'oubliez pas ce que j'avais enseigné dernièrement en ce qui concerne du cœur. C'est par là que commence l'idolâtrie. Dieu doit être le premier dans ton cœur. Amen. Tu dois l'aimer plus que tout. Lorsqu'Israël a construit le veau d'or, nous passons à la sixième. La Bible dit, toujours dans ce même Exode 32, verset 6, que le matin ils se levèrent pour se divertir. La Bible reprend ce passage en 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 7. 1 Corinthiens 10, verset 7, il dit, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, comme quelques-uns d'eux, pardon, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis il se levait pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'impudicité comme quelques-uns d'eux qui s'y livraient de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Amen. Ne devenez pas idolâtres. Et l'idolâtrie, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est le fait de ne pas servir Dieu et de vouloir que Dieu le serve. Amen. C'est différent sûrement de l'idolâtrie des païens. Mais ici, il est question du veau d'or, que les gens ont appelé l'éternel. C'est pour vous dire la conception qu'ils avaient de Dieu. Pour eux, c'était Dieu. Mais ils l'ont imagé par un veau. Ils ne lui ont pas donné un autre nom. Parce que pour eux, ils n'ont pas abandonné Dieu. Ils auraient pu dire, bon, on va l'appeler Baal, on va lui donner un autre nom différent de l'éternel que Moïse nous enseignait. Mais ils ont donné le nom de l'éternel parce que pour eux, c'était Dieu, mais un Dieu à leur service. Et c'est là que trébuchent beaucoup de gens dans le désert. Et c'est ce pour qu'ils restent dans le désert. Parce qu'après ça, après le veau d'or, la couleur de Dieu va s'abattre de manière plus forte sur le peuple. Et chaque plaie, parce qu'à partir du veau d'or, quand Moïse va descendre, il va avoir les premiers morts. Il va demander aux Lévites que ceux qui, aux Lévites de massacrer tous ceux qui ont adoré le veau. Et ainsi de suite, les plaies vont devenir très fatales. Jusqu'à la terre promise, où ils vont abandonner la main de Dieu, ils vont aller passer maintenant donc 40 années dans le désert, le temps que tous ceux qui avaient, tous ceux qui étaient de la première génération puissent mourir. Et pendant ce temps-ci, ils vont connaître encore d'autres tentations, d'autres épreuves. Mais les 10 tentations du désert sont celles-là. Amen. Il y a d'autres éléments qui reviennent lorsqu'Israël a fait les 40 ans dans le désert, qui sont des éléments aussi que vous revoyez ici. Après ça, la Bible dit qu'ils se levèrent donc pour se divertir. Le mot divertissement, c'est un peu le mot laisser aller. Se laisser aller, ça englobe la négligence, la paresse, et sur le manque de détermination. C'est-à-dire faire ce qu'on a envie de faire. Israël s'est laissé aller. La Bible dit qu'ils ont mangé, ils ont bu, donc ils ont satisfait leur désir premier. Ils se levaient pour se divertir. Une chose que vous devez apprendre dans le désert, c'est le travail. Mes amis, Dieu n'aime pas la paresse. Oui, la paresse est un péché. Alléluia. Alléluia. En vue de vous préparer pour votre destinée et pour votre promesse, Dieu va faire en sorte que dans le désert, vous appreniez à travailler. À ne pas vous divertir, pas à ne pas se reposer, c'est différent du sabbat. Mais à travailler. Ici, il est plutôt parlé d'un laisser-aller. Le paresseux, c'est celui qui se laisse aller à la vie. Le matin, son corps lui dit, aujourd'hui, mon ami, tu dors 11 heures. Il se laisse aller jusqu'à 11 heures. La nuit, il a un tout petit peu de sommeil. Son corps lui dit, tu sais, c'est pas la peine de prier. Il dort. Il y a beaucoup de choses à dire sur la paresse. Quand vous lisez le livre de Proverbes, il y a tellement de versets là-dessus. Mais il n'y a pas quelque chose qui attire la pauvreté davantage que la paresse. La paresse et la pauvreté sont deux amis. Vous savez, lorsque vous arrivez dans la terre promise, ce n'est pas comme vous arrivez à un moment où vous demandez, retenez bien, ce n'est pas le demander, c'est le frapper. Ça veut dire qu'il faut travailler. Mais l'avantage de la terre promise, c'est que tout ce que tu fais te revient en même temps. Or, dans le désert, ta semence, j'ai l'impression qu'elle disparaît. Mais dans la terre promise, en fait, dès que tu sèmes, tu vois le fruit. Et tu as acquis une connaissance, tu sais, le temps que va prendre pour germer, pour pousser une semence. Parce que tu as acquis de l'expérience. Mais ça, c'est quelque chose que tu dois acquérir étant dans le désert. Israël se laissait aller. Israël a pris, le peuple juif a pris la paresse. Beaucoup de gens ne veulent pas travailler. Vous savez, quelquefois, ça peut être dû au découragement. On dit, bon, mais tout ce que je fais échoue. Donc, je vais rester comme ça. Et puis, je vais attendre. Le jour où Dieu est content, il va venir. Non. Ça, c'est le laisser aller. C'est ça, le divertissement. Il ne faut jamais se relâcher. Amen. Faites tout ce que vos mains trouvent. Et faites-le bien. Je vous dis la vérité, ça vous servira tôt ou tard quand vous rentrez dans votre promesse. Dans le désert, vous ne recevrez pas de directive de Dieu pour vous dire, va faire ceci, va faire cela. Il y a tellement un silence quelquefois que tu ne sais même pas ce que tu vas entreprendre. Même tu vas demander à Dieu, qu'est-ce que je peux faire dans l'église? Il ne va même pas te répondre. Ok? Donc, parce que tu es dans le désert. Dans le désert, c'est comme ça se passe. Vous comprenez? Qu'est-ce que je peux faire? Je rentre dans l'intercession, je rentre dans ceci, cela. Tu peux même pas avoir de réponse. Ce que tu as envie de faire, puis confie à l'Éternel tes projets, puis va et fais-le. Et fais-le bien. Amen. Alléluia. Va et fais-le. Et fais-le bien. Faites bien tout ce que vous aurez à faire. Vous savez, dans le désert, il va vous arriver un temps de douter même de votre destinée, de douter de votre vision, de savoir est-ce que vraiment c'est ce que j'ai reçu. Mais Dieu le permet à un moment donné. Vous voyez, lorsqu'un enfant part à l'école, dès le début, on peut lui dire voilà ce qu'on souhaite qu'il soit, ou bien il souhaite être quelque chose. Mais à l'école, tu dois tout apprendre. Tu ne dois pas faire les choses selon forcément ta destinée. Tu fais les choses selon ta destinée, mais dans un premier temps, tu ne fais pas les choses selon ta destinée. Tu fais tout. Tu dis quoi? Je ne vais pas, par exemple, parce que je sais que si vous dites à l'enfant très tôt, tu sais, ma fille, demain tu seras grand médecin, ou bien grand mathématicien, grand physicien. Alors il se dit, bon, comme je serai un physicien, donc, tout ce qui est matière littéraire, je ne vais pas faire, je ne fais rien. Donc je me concentre seulement que sur la physique. S'il a de la chance, il peut passer en classe supérieure, ça veut dire qu'il est extrêmement fort en physique, c'est-à-dire parce qu'il y a plusieurs matières selon le coefficient. Ça m'étonne même qu'il aille plus loin. Mais s'il devait arriver il va être un grand physicien, être physicien, vous allez voir qu'il sera un physicien nul. Il ne sait pas parler le français, qui ne peut pas rédiger un texte, qui ne sait rien faire. Il ne comprend une chose que la physique. Sinus, cosinus, c'est tout ce qu'il comprend. Et quand vous allez l'écouter, vous serez déçus. Quand Dieu va vous amener vers votre destinée, vous savez, Dieu quelquefois ne nous dit pas exactement ce qu'il attend de nous, de peur que nous ne fassions pas bien ce qu'il met devant nous. Parce qu'en fait, c'est vrai que tu vas, comment dirais-je, peut-être que Dieu va t'appeler à les hôpitaux pour soigner les malades, tu vois, mais dans le désert, Dieu peut te faire la comptabilité au lieu de te faire du social. Après la comptabilité, tu sens que ton cœur brûle pour aller faire autre chose, tu vas et tu fais. Ce que tu as envie de faire, il faut le faire. Mais fais-le bien. Amen. Quand tu toucheras la comptabilité, sois le meilleur comptable. Amen. À un moment donné, tu vas sentir Dieu t'envoyer dans un autre domaine. Va et fais-le. Tu vas voir que lorsque tu vas commencer à gérer ton hôpital pour les pauvres, ta comptabilité, ta gestion et tout ce que tu as appris pendant le temps des déserts te serviront. Ce n'est pas seulement le service social qui va te servir, qui va t'aider. Amen. Alléluia. Ce qui fait que lorsque tu vas exercer ton ministère, qui est peut-être médecin, mais tu es un excellent médecin. Amen. Tu sais rédiger un rapport. Parce que quand tu étais dans la classe pour rédiger le rapport, tu as appris à bien le faire. Amen. Amen. Dieu ne vous mettra pas exclusivement sur votre vision et sur votre vision seulement. Amen. Pour que vous ne fassiez que, on dit tu as appelé à être médecin, tu ne fasses que médecine et médecine seulement. Amen. Vous comprenez? Amen. Alors si vous êtes à l'église par exemple, quand vous avez envie de faire le service, faites-le et faites-le bien. Ne fais pas négligemment en disant, non, ce n'est pas ma destinée. Dans l'église, je sais que je suis appelé à prêcher. Oui. C'est pas mon appel. Comme le pasteur veut que je sois là, je serai là contre cœur et tu ne t'y appliques pas. Ça va te revenir tôt ou tard lorsque tu vas entendre tes promesses. Ah oui. Si Dieu t'amène à faire le service d'ordre, le pasteur te dit, fais, sois hôtesse, reste dans la sécurité, sois le meilleur agent de sécurité de l'église. Fais bien ce que tu as fait. Ça sera énorme les choses que tu vas t'apprendre là-dedans. À un moment donné, tu sens, je veux rentrer dans le groupe de prière. C'est pas grave, mais je ne comprends pas. Dieu me dit ceci, Dieu me dit cela. Oh, c'est qu'il ne t'a pas encore vraiment clairement révélé ta destinée. Mais il te donne une formation polyvalente. Et puis lorsqu'il va te présenter exactement ta destinée, alléluia, voilà, tu seras extraordinaire. Amen. Vous imaginez quand vous parlez avec un médecin qui a une connaissance générale vaste. Vous rentrez en histoire, il est capable de vous parler. Vous parlez de la politique, il peut vous dire quelque chose. Vous parlez, mais pourquoi? C'est parce qu'à un moment donné dans sa vie, il n'a pas négligé les choses qui lui sont tombées dans la main. Il les a bien faites. Amen. Il n'a pas fait de ces choses-là sa destinée. Mais, comme Dieu n'intervient pas constamment, alors, il y a des choses qui me tombent sur la main, il y a des livres qui tombent sur ma main. Il y a des éléments qui arrivent, je dois le faire. Je ne dois pas dire non, ça, ce n'est pas ma destinée. Ce n'est pas ma destinée. Donc, je ne fais pas. Je dois le faire, mais je ne dois pas oublier. Bien sûr que ça c'est ma destinée. Je ne dois pas l'oublier. Je dois travailler avec diligence. Alléluia. Il ne faut pas être paresseux. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je bénis l'Éternel parce qu'à l'église, j'ai fait tous les départements. Quand j'étais à l'église, j'ai fait tous les départements. J'ai fait tout. J'étais balayeur de l'église. J'ai balayé le temple. J'ai été moniteur. Je me suis occupé des enfants. Et puis j'étais un bon moniteur. J'ai fait le groupe de délivrance, le groupe d'évangélisation. En tout cas, tous les départements. Je faisais. Et une fois, je voulais être dans un département. Le pasteur a insisté pour que je sois dans un autre. J'ai accepté. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Alléluia. Je bénis l'Éternel. Proverbe chapitre 6, verset 6. Il a dit, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseuse, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Alléluia. Ne laissez pas vos mains oisives. Travaillez. Même si vous n'avez pas clairement votre destinée pendant que vous êtes dans le désert, ne vous levez pas comme Israël a fait pour se divertir. Travaillez. Si Dieu ne vous a pas donné la révélation de savoir ce que vous allez faire à l'église, trouvez quelque chose à faire et puis faites-le. Alléluia. On pourrait te dire, mais toi tu ne sais pas ce que tu veux. En fait, tu sais ce que tu veux. Tu apprends tout ce qui est là, le temps que Dieu te décide à te faire sortir du désert. Comme depuis là, tu attends, il n'intervient pas. Alors, profite de cet instant pour apprendre. Pendant les 30 ans, qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit qu'il grandissait en sagesse, en stature. Il partait voir les sacrificateurs, les pharisiens, ceux qui connaissaient la loi. Il leur posait des questions. Il a appris. Amen. Alléluia. Alléluia. Il faut vraiment réussir cette période. Ça vous permet d'être des chrétiens équilibrés. Ça, c'est la sixième épreuve du désert. Comme je dis aussi, beaucoup de personnes, pendant ce temps, tournent le pouce, attendent le miracle, ce que Dieu va faire. On dit, mais qu'est-ce que tu fais? Non, le Seigneur ne m'a encore rien dit. Qu'attends-tu pour te lever? Je n'ai pas encore reçu de révélation. Tu sais, je ne veux rien faire par précipitation. Je veux faire tout conduit par le Saint-Esprit. Ça paraît spirituel, mais c'est charnel.
Amen.
Non, ça paraît spirituel, mais c'est charnel. Dieu veut que tu sois polyvalent. Dieu veut que tu connaisses beaucoup de choses. Dieu veut que tu apprennes. Ton cerveau est tellement puissant, tellement grand. Et tu verras que tous ces éléments te serviront dans tes promesses. Lorsque tu entres dans ta destinée, tous ces éléments-là vont te servir. Donc tout ce que tu trouves, fais-le. Prie, confie à l'Éternel tes projets. Ne te lève pas pour entreprendre sans avoir pris le temps de lui confier dans la prière. Prie, dis Seigneur, tu vois, je vais faire ça. J'ai envie de le faire. J'ai envie de chanter, j'ai envie de faire ceci dans l'église. Alors sois avec moi. S'il ne veut pas, il va t'arrêter. Mais s'il ne te dit rien, alors fais-le. Amen. Ne sois pas paresseux. Ne dors pas. Il ne faut pas trop dormir, frère. Mais il ne faut pas trop dormir. Dans la vie, il ne faut pas dormir. Il faut dormir, mais pas excessivement. Un homme doit se reposer. Alléluia. Voilà. Il faut avoir un sabbat, il faut avoir un temps de repos. Mais il ne faut pas dormir. Trop. On doit avoir 7 heures à 8 heures de sommeil au plus. C'est bon. Quand vous dépassez ça, ce n'est pas bon. Amen. La Bible dit que dormir attire la pauvreté. Dormir attire la pauvreté. Beaucoup de gens sont pauvres parce qu'ils ne veulent pas travailler. Parce qu'ils ne veulent pas entreprendre. Parce qu'ils ne sont pas dynamiques. Parce qu'ils ont peur d'échouer. Je t'assure que si tu commences quelque chose, ça va échouer d'abord avant que ça ne marche. Si tu as peur d'échouer, tu vas jamais réentreprendre. Si la mère a peur que son fils marche, a peur qu'il tombe, elle va le prendre pour l'empêcher de marcher et il ne marchera jamais. Si tu as peur d'échouer, tu ne vas jamais réussir. Amen. Alléluia.
Amen.
Nombre chapitre 11, versets 4 à 6. Le septième point du désert. Donc vous constatez qu'Israël était en train d'aller, après le veau, Israël va aller en dégringolade. Jusqu'à nombre 14, où là, ils ne pourront plus tenir. Ils vont faire une dépression morale. Passer toute la nuit à pleurer, ça c'est une dépression. Ils étaient fatigués. Mais avant ça, toujours comme Dieu tardait pour eux, après que Dieu ait frappé le peuple pour son divertissement, pour l'idolâtrie, pour son impatience, il y a eu plusieurs morts. Nous allons arriver à Nombre chapitre 11. La Bible dit que le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabera parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Voilà, on continue, voilà. Et le feu, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer en disant, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons. Et de quoi là? C'est quoi ça? De l'ail. Bon, chez moi c'est écrit autre chose, je ne sais pas c'est quoi. Oh, voilà. De l'ail. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressembla à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser et la broyer avec des meules. Bon, je m'arrête là. Amen. Vous voyez déjà en Nombre chapitre 11, comment pour ces temps de mémoire là, comment Dieu va les frapper. Pourtant, avant Exode 32, c'est-à-dire l'idolâtrie, ils murmuraient et Dieu agissait. Ils murmuraient et puis Dieu répondait à leurs besoins. Mais après l'idolâtrie, Dieu va commencer à les frapper. Si vous n'avez pas réglé le problème de l'idolâtrie, les choses vont encore s'abattre profondément contre vous. Votre désir sera plus grand. Il faut, comme je vais vous lever, pour commencer vraiment à servir l'Éternel, à poser des actes pour le service de Dieu, à porter vos 3 T. Il faut vous décider à le faire. Il faut être entreprenant. Il faut travailler. Il ne faut pas se laisser gagner par la paresse. Ici, il est dit que le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël a ramené en eux la convoitise. Ici, il est beaucoup plus parlé de convoitise. Alléluia. La septième tentation du désert, la septième épreuve, vous savez, c'est la convoitise qui est créée par les mauvaises compagnies. Lorsque vous êtes dans des périodes quelquefois de désespoir, vous savez, vous pouvez avoir le réflexe de regarder à ceux qui apparemment semblent avoir réussi, mais qui n'ont pas une bonne vie. Je dis aussi, malheureusement, beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés dans ce piège. Des gens qui étaient intègres, mais ils ont vu quelqu'un d'autre qui roule dans une grosse cylindrée. Il a un jet privé. Et ils se disent, si cet homme-là est autant prospère, c'est que tout ce qu'il fait est de Dieu. Et ils avalent tout. Et vous voyez des gens aujourd'hui qui avalent toutes sortes de fausses doctrines parce que simplement ils ont vu quelqu'un qui ouvre une Bible et qui a un avion privé. L'argent n'est pas la preuve de la bénédiction. La bénédiction procure de l'argent, mais l'argent n'est pas la preuve de la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Le diable peut vous donner de l'argent aussi, justement pour séduire les gens. Mais tu ne seras pas béni, ce n'est pas la bénédiction. La bénédiction est beaucoup plus vaste que l'argent. Amen. Tu peux avoir de l'argent, et quand tu es stérile, tu souffres. Quand vous voyez la bénédiction que Dieu promet, non, ni stérilité. Et tu vas avoir tout ça quand tu vas rentrer dans ta terre promise. Amen. La convoitise qui naît des mauvaises compagnies. Sur le chemin de votre destinée, il faut faire attention à ceux avec qui vous marchez. Amen. Si vous marchez avec des gens qui ont une mauvaise attitude, la Bible déclare que cela va corrompre vos bonnes intentions. Et cela peut vous mettre en retard sur le chemin de votre destinée. 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 33 dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies auront les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies auront les bonnes mœurs. Si vous avez une mauvaise compagnie, elle va détruire les talents et les grâces que Dieu a déposés en vous. Et le diable est capable de vous donner des mauvaises compagnies. L'envie. Ah, mais cet homme-là, cette femme-là, elle est bien. Et vous commencez à marcher. Mais ce qu'il vous dit et ce qu'il vit est contraire à la parole de Dieu. Faites attention avec qui vous marchez. Alléluia. Et qu'est-ce que ces gens ont commencé à faire? Ils ont ramené en Israël le ramassis de gens qui étaient au milieu d'eux. Ont ramené dans le cœur du peuple les désirs d'Égypte. Quand on était en Égypte, vous allez voir des frères, des sœurs, quelquefois qui viennent à l'église. Vous commencez à les fréquenter. Et vous découvrez que ou bien ce frère-là, ou cette sœur, n'a pas une vie qui glorifie pas, il a une vie qui ne glorifie pas Dieu. Mais tout ce qu'elle fait réussit. Elle est là, elle ne s'est pas mariée dans le Seigneur. Elle était dans l'église. Toi, tu pries. Elle dit, ma sœur, attends. Elle va, elle prend un gros païen, elle l'amène. Tu arrives à son foyer, elle a ses enfants. Tu la regardes. Ah, Dieu. Tu as dit de me marier avec tes enfants. Je reste là, je suis fidèle. Et la sœur est dans l'église. Hein. Quand elle a un problème, elle prend les raccourcis. Et puis tout marche. Et tu commences à dire, ton cœur commence à être rempli de convoitise. Tu dis, mais peut-être qu'elle a un peu raison qu'il faut aider Dieu. Hein? Aider Dieu. Elle dit, ma soeur, c'est comment ça marche? Je vais le prendre, je vais prier. Il va se convertir. Attends, tu vas voir. Je te dis, regarde bien cette soeur. Tu vas voir les problèmes qu'elle va avoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que dans les temps d'épreuve, vous ne regardez pas aux mauvaises compagnies. Sachez avec qui vous marchez. Amen. La Bible dans le livre de, qui parle de cela dans le livre de Proverbes chapitre 24, verset 1. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas d'être avec eux. Car leur cœur médite la ruine et leur lèvre parle d'iniquité. Il ne faut pas désirer être avec les gens méchants. Dans le psaume chapitre 1, verset 1, à partir du verset 1, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont les feuillages ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. La Bible dit qu'il va donner son fruit en sa saison. Ça veut dire quand la saison va arriver, c'est la saison de la gloire, la saison de la bénédiction, cet arbre donnera son fruit. Amen. Mais la Bible te dit de ne pas désirer être avec le méchant. de peur que cela ne crée en toi la convoitise des choses que tu as laissées. Le huitième point, Nombre chapitre 14. Là, nous arrivons dans la dernière colère de Dieu qui va les amener à prolonger leur désert. Il est dit, toute l'assemblée éleva la voix. Bon, après Nombre chapitre 13, ou en Nombre chapitre 12, pardon, Nombre chapitre 13. Ah non, excusez-moi, je crois que j'ai dit quelque chose. Donc, le huitième point, pardon. Le huitième point, c'est dans Nombre chapitre 12, à partir du verset 1. Il est dit, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne et il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez-vous trois à la tente d'assignation? Ils y allaient tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Bon, je termine pas le passage, mais quand vous lisez après, Dieu va frapper donc Marie de la lèpre pour sa révolte. Le huitième point, c'est la révolte. Amen. La révolte et la rébellion. Ce point est aussi transparent au niveau de Nombre chapitre 14. Se rebeller. Si vous passez généralement les autres points dans le désert, si vous les passez vaillamment, si vous les passez, vous risquez à un moment donné, après votre travail avec ferveur, vous risquez d'acquérir beaucoup de connaissances. Mais que la connaissance que vous allez acquérir ne vous monte jamais à la tête. Amen. Pour vous croire supérieur à ce que Dieu a élevé sur vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vas commencer à connaître tous les versets de la parole de Dieu, tu es travailleur. Peut-être tu lis la Bible trois fois plus que ton pasteur. Et tu as des révélations plus puissantes que lui. Garde-toi de lever la main contre lui ou la parole contre lui. La révolte a entraîné beaucoup de gens dans la perte dans le désert. Il y a des gens qui ont passé tous les éléments et qui étaient des gens brillants, travailleurs, disciplinés, organisés. Ayant acquis un certain nombre de connaissances, ils commencent à regarder le pasteur, mais moi-même, je prêche mieux que lui. Ce qu'il dit là, je connais tout. Je connais. C'est ce que Moïse et puis Aaron et Marie sont dit. Mais nous, est-ce que c'est à lui seul que Dieu parle? Nous aussi, Dieu nous parle. Mais quand Dieu a commencé à parler à Moïse, eux, c'était encore des enfants spirituels. C'est lui qui les a formés. Et donc, ils sont arrivés à un moment donné où Dieu aussi se révélait à eux. Est-ce que c'est au pasteur seul que Dieu parle dans l'église? Nous aussi, Dieu nous parle. Faites attention à l'autorité de Dieu. La révolte, c'est se rébeller à l'autorité. Soyez toujours soumis. Amen. Alléluia. Si Dieu est passé par quelqu'un pour vous bénir, pour vous édifier, même si à un moment donné, vous vous sentez plus béni que lui, plus utilisé que lui, respectez son autorité. Le pasteur Mathieu, dans son intervention, a bien dit. Il dit, fait une différence entre un mentor et puis son père spirituel. Et son père spirituel, même si aujourd'hui son ministère est peut-être 10 fois ou 100 fois plus puissant que son père spirituel, mais il le respecte toujours. Alléluia. Et ça, c'est une caractéristique qui va vous aider à finir votre désert. Si vous êtes rebelle, vous ne finirez pas le désert. Si vous rebellez à l'autorité, si vous ne considérez pas les autorités spirituelles sur vous, Dieu ne vous fera pas quitter le désert. Alléluia. Donc ça, c'est la révolte, la huitième tentation du désert, Nombre chapitre 12, à partir du verset 1. Nous sommes vers la fin. Nombre chapitre 14, à partir du verset 1. Il est dit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se diront l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Noun et Caleb fils de Jephné, déchiraient leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui, je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement. Toi l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est dans la colère, est riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon ta grandeur, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert et qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes à la fin. Voilà donc Israël qui va... Là, carrément, c'est le découragement total. Ils ont carrément abandonné. Et cela va se manifester d'abord, la Bible dit que toute l'assemblée a pleuré, ils ont pleuré toute la nuit. Dieu avait demandé à Moïse d'envoyer 12 personnes, une personne par tribu, à Canaan pour voir un peu la terre. Ils sont partis, ils sont revenus, et ils ont vu que c'était une terre effectivement bénie. Mais là se trouvaient des géants. Lorsqu'ils sont revenus faire le rapport, ils ont dit, ces hommes-là, nous sommes comme des sauterelles devant eux. Alors Israël a dit, mais pourquoi Dieu nous envoie ici? Des gens qui vont nous tuer. Comment est-ce qu'on peut se battre avec eux? Et ils ont pleuré toute la nuit pour dire que Moïse les a trompés. L'incrédulité manifestée ici d'Israël est la conséquence de tout ce qu'ils avaient commis, de la façon dont ils sont approchés de Dieu depuis le début. Ils avaient faim, mais ils ont prié en murmurant. Dieu a fait tomber de la manne. Lorsqu'ils avaient besoin de viande, ils ont prié, mais toujours en murmurant. Et Dieu a fait venir les cailles. Ils étaient toujours plaintifs. Ils se plaignaient constamment. Ils cherchaient toujours à abandonner la main de Dieu. Ils ont raté toutes les précédentes tentations, les précédentes épreuves. Et c'est ce qui s'est manifesté. S'ils avaient appris à avoir confiance en Dieu, à voir que ce Dieu vivant qui a ouvert la mer en deux, ce Dieu qui a fait tomber la manne, ce Dieu qui nous a donné les cailles, ce Dieu qui a frappé par sa colère des gens, ce Dieu qui a pu descendre de la montagne et la montagne tremblait, ce Dieu dont nous avons entendu la voix, s'ils se référaient à lui, ils auraient la victoire. Vous savez, quand vous passez votre temps à vous plaindre et que vous ne comprenez pas les précédentes épreuves du désert, vous avez un cœur disposé à ne pas me parler dans vos promesses. Alléluia. Parce que qu'est-ce que cela dépend en vous? Le manque total de confiance en Dieu. Au lieu de regarder à ce que Dieu fait, ces personnes considèrent plus ce que Dieu n'a pas fait. Au lieu de regarder au miracle de Dieu, ces personnes regardent à leur souffrance. Au lieu de regarder à la puissance de Dieu, ces personnes regardent à eux-mêmes leurs limitations. Et c'est à leur limitation qu'ils ont regardé. Et ils ont décidé de ne pas entrer dans la terre promise. C'est eux-mêmes qui ont refusé d'y entrer. Parce qu'ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Alléluia. Cela manifeste l'incrédulité. La Bible appelle un peuple au cou raide. Et si vous... Je n'ai pas le temps de parler vraiment effectivement de la circoncision. Mais c'est là la circoncision. La circoncision... La Bible dit en Colossiens chapitre 2 verset 11. Dieu décrit de quoi il s'agit. C'est cette transformation-là. Va vous donner cette confiance, cette assurance totale en Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans le désert? C'est cette dépendance totale de lui. Le fait de savoir que même quand nous n'avons plus rien, il est fidèle. Le fait de savoir que Dieu est constamment avec nous. Le fait d'être déterminé dans la vision que le Seigneur nous a donnée. Voilà ce que Dieu attend de nous. Le fait d'avoir cette assurance qu'il est constamment avec nous. Le fait de le servir. Le fait d'être des gens diligents et travailleurs. Alléluia. Le fait de gérer ses compagnies et ceux avec qui nous marchons. Voilà ce que Dieu veut qu'il y ait dans le désert. Israël n'a rien saisi de cela. Ils n'ont pas pu croire en Dieu. Et ils ne sont pas entrés dans la terre promise. À cause de leur incrédulité. Et le dernier point, bien sûr, ils ont retrogradé. Ils ont carrément abandonné la main de Dieu. Alléluia. Ils ont dit, ça suffit. Moïse, on ne veut plus. Ils voulaient le tuer. Et Dieu s'est levé. Dieu s'est fâché contre eux. Il dit, bon, retenez-nous dans le désert. Je vais exterminer toute cette génération. Et leurs enfants entreront dans la terre que j'ai promis. Alléluia. Et Israël va se retrouver encore en train de faire 40 années dans le désert. Pendant qu'ils avaient fait cette traversée en quelques mois, même par le chemin le plus long du désert, Israël n'a pas réussi sa traversée du désert. Mais nous avons pris l'exemple de ceux qui n'ont pas réussi la traversée du désert. Mais la Bible est pleine d'exemples de ceux qui ont réussi. Abraham a réussi. Joseph a réussi. Jacob a réussi. Christ, notre Seigneur, a réussi. Tous les hommes de Dieu ont réussi. Tu peux réussir. Vous savez, l'Éternel dit dans sa parole qu'il ne permettra pas à ce qu'une tentation soit au-delà de ta force. Je t'assure que les épreuves auxquelles tu es confronté, tu as en toi la capacité qui vient de Dieu de les surmonter, de les surpasser. Alléluia. Dieu a déposé en toi la capacité de vaincre. Amen. C'est vrai qu'Israël a beaucoup souffert lorsque nous voyons sa souffrance. Mais les miracles qu'ils ont vus étaient proportionnels à leur souffrance. Ils ont vu des choses extraordinaires. Il va les amener à croire malgré les temps difficiles, malgré les temps d'épreuve. Tu peux réussir ton désert. Alléluia. Et tu dois le réussir. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et le monde t'attend. Si tu meurs maintenant dans ton désert, si tu rétrogrades dans ton désert, si tu abandonnes, beaucoup d'hommes et de femmes ne seront pas sauvés à cause de toi. Il y a en toi quelque chose d'extraordinaire, des choses que Dieu a déposées en toi et le monde attend la manifestation. Mais Dieu te dit, avant d'entrer dans la période du frappé, avant d'entrer dans la promesse, tu passeras par le désert. Tu dois réussir ton désert. Tu n'as pas le droit d'échouer, ma soeur. Tu n'as pas le droit d'échouer, mon frère. Ton échec est trop dramatique, sera dramatique. Les hommes ont besoin de toi. Relève-toi maintenant, servante de Dieu. Quelles que soient les épreuves que tu connais, relève-toi. Bénis l'Éternel pour tout ce que tu rencontres. Bénis l'Éternel pour les gens qui t'ont abandonné. Bénis l'Éternel pour tout ce que tu as perdu. Je te dis que tu n'es pas en train de faire quelque chose parce que ta gloire se prépare. Oh, considère la parole de Dieu. Nous disons que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui éternellement. Si Dieu n'a pas changé, pourquoi croyons-nous qu'il serait différent du Dieu de Joseph, du Dieu d'Abraham? Nous l'appelons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais tous ces trois patriarches ont passé par leur désert. Jacob a passé 20 ans chez Laban. Mais ces hommes sont restés fidèles et fermes en Dieu. Même dans le désert, Dieu est fidèle. Même dans le désert, Dieu pourvoit nos besoins. Même dans le désert, Dieu fait en sorte que nous puissions manger. Vous savez, quand vous passez par les moments difficiles, faites comme Jérémie dans le livre de Lamentations. Rappelez dans votre cœur que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Rappelez-vous constamment dans le cœur. Ne regardez pas au problème, mais rappelez-vous constamment les promesses de Dieu. Quand vous souffrez, rappelez-vous constamment les promesses de Dieu. Quand vous avez envie de pleurer, entrez dans des prières de supplication, parlez à Dieu. Dis, Seigneur, viens au secours de ma foi. Mais surtout, ne pleure pas, ne murmure pas et ne prononce pas des paroles de rébellion. Il peut t'arriver de pleurer, c'est normal. Tes émotions peuvent être atteintes. Mets-toi devant le Seigneur, dis, Seigneur, c'est dur pour moi. Mais je ne te renierai pas. Je ne t'insulterai pas. Je ne parlerai pas mal. Fortifie ma foi, Seigneur Dieu. Car je sais que je passe par là, mais je sais que j'arriverai jusqu'au bout. Car ceux qui m'ont dévancé sont passés par le même chemin. Pourquoi moi j'éviterai ce chemin? S'il te plaît, accepte le chemin du détour. Accepte le chemin du détour. Ne sois pas nostalgique. Aie la vision devant toi. Ces choses vont se produire. Alléluia. Alléluia. Nous allons baisser les têtes et parler à Dieu. Prions le Seigneur. Ce matin, nous avons prié pour les 5 premières tentations, mais je vais les rappeler pendant que nous avons les têtes baissées. Parlons à Dieu, parlons à Dieu. Que le Seigneur vienne fortifier ta confiance en lui. Afin que, quelles que soient les choses qui te manqueront, que tu ne délaisses point l'Éternel ton Dieu. Que tu restes ferme, confiant. Confiant qu'il est celui qui ne te délaissera pas. Il a dit de ne pas t'inquiéter pour ce que tu vas manger, de ne pas t'inquiéter de quoi tu seras vêtu, de ne pas t'inquiéter de quoi tu vas boire, que lui-même Dieu prendra soin de toi. Ne t'inquiète pas. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 13 que les inquiétudes
empêche la graine qui est tombée dans les épines de porter du fruit. Les épines ont étouffé la branche et ont étouffé l'arbre qui a été semé dans les épines dans Marc 13. Et l'arbre n'a pas pu porter son fruit. Et les épines, ce sont les inquiétudes et les soucis de la vie. Arrête de t'inquiéter. L'inquiétude va t'arrêter. L'inquiétude, les soucis de la vie t'empêcheront de donner ton fruit. Les inquiétudes de la vie t'empêcheront de donner ton fruit. Les inquiétudes de la vie, c'est comment vais-je, que vais-je faire? Comment est-ce que je vais me nourrir? Comment est-ce que je vais manger? Comment est-ce que je pourrais me vêtir? Je t'assure, mon frère, je t'assure, ma soeur, que si tu restes confiant et si tu passes vaillamment cette première épreuve, tu verras que l'Éternel pourvoit tous tes besoins. Expose-les lui. Surtout concernant les besoins primaires. Dieu est fidèle. Ribo Satabra de Kim. Que ton cœur soit rempli et déterminé pour la vision que le Seigneur ton Dieu te donne. Que ce soir, tu sois déterminé. Déterminé à atteindre le but.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.